grand reportage.
Il y a presque un mois, le mardi 4 août, Beyrouth était ravagé par une puissante explosion qui a coûté la vie à près de 190 personnes. Le traumatisme et les dégâts aggravent encore la descente aux enfers économique et sociale que connaît le Liban sur fond de blocage politique et de colère d'une partie de la population envers les dirigeants du pays. Beyrouth, l'espoir en faillite, un grand reportage de Nicolas Falaise et Nicolas Benita.
Voilà, alors j'ai eu un bout de verre dans le dos, grand bout de verre, ce qui fait que j'ai 26 points de suture dans le dos. J'ai eu quelque chose, ma femme pense que c'est la porte de la chambre de ma fille qui est venue me percuter le thorax. J'ai 6 côtes cassées. Ensuite j'ai eu ce qu'on appelle un pneumothorax, c'est-à-dire que de l'air et du sang dans les poumons. En une seconde, tout a explosé, tout est passé par moi. Mais je suis un miraculé, je me considère comme un miraculé, parce que dans ce couloir étroit, dans tout ce verre, ces bibliothèques, ces portes, un centimètre plus haut, plus bas, j'aurais pu très bien y passer, quoi. Très facilement. Donc je me considère comme un miraculé, je rends grâce à Dieu, quoi, d'être vivant, quoi. C'est un miracle.
C'est dans un couloir de son appartement de Beyrouth que Omar Boustany a été grièvement blessé par l'explosion du 4 août. Depuis, l'appartement a été réparé et rangé. Convalescent, Omar Boustany enchaîne les cigarettes sur son canapé, entouré de ses livres et de ses figurines représentant des personnages de Tintin. Omar a 50 ans, des boucles grises. Ce créatif qui travaille en indépendant dans le domaine de la publicité est aussi un Libanais en colère.
Moi, j'étais déjà engagé dans la révolution du 17 octobre contre ce pouvoir illégitime, corrompu, qui marche dans l'axe iranien, qui est très néfaste et nauséabond pour le Liban. Donc j'étais déjà engagé, moi, dans les manifs depuis le 17 octobre, parce que notre argent est bloqué dans les banques, il n'y a plus de travail, la monnaie nationale a été dévalorisée, il n'y a pas d'électricité, pas de mazout. Déjà, c'était la catastrophe. Mais on n'imaginait pas qu'une bombe atomique, chimique, atomique, je ne sais pas ce que c'est, allait détruire la moitié de la capitale et nous dans nos maisons. Donc je dis que maintenant, la révolution du 17 octobre, après le 4 août, on est passé dans une nouvelle dimension. Il y a un avant 4 août, un après 4 août, rien ne sera plus jamais pareil. Les plus beaux quartiers de Beyrouth ont été détruits. Et aucune explication, aucun deuil, pas une journée de deuil. Le président n'est même pas descendu voir les gens. Pas un ministre n'est descendu sur le terrain. Pas de drapeau en berne. L'armée n'a pas aidé à sauver les survivants, c'est les gens eux-mêmes. Rien. Zéro état, la faillite totale. Même au niveau symbolique, qu'est-ce que ça coûte de mettre un drapeau en berne? Rien.
Une ruelle, des escaliers, une terrasse, nous entrons chez René Bembo. Deux pièces modestes dont les murs sont recouverts d'une peinture sans âge et d'images pieuses. René Bembo a 74 ans, court cheveux blancs et au pied une paire de baskets roses. Elle a toujours vécu dans ce quartier de Beyrouth, ravagé par l'explosion, survenue à seulement quelques centaines de mètres d'ici.
J'ai retrouvé ma voiture sans toit, détruite à l'arrière et sur le côté. Une fois arrivée ici, j'ai vu que deux portes étaient tombées sur mon lit. Si j'y avais été, je serais morte. Et à l'étage d'en dessous, tout avait disparu, tout était démoli. Personne ne m'a aidée jusqu'à maintenant. Seuls ces jeunes hommes que vous voyez là sont venus. Ce sont eux qui réparent les portes et les fenêtres. Depuis ce jour-là, je ne dors pas. J'ai peur, car la porte est ouverte. Peur parce qu'à la radio, j'entends dire qu'il y a des voleurs. Un jour, en sortant, j'ai entendu un boum. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était mon sac qui était tombé. Alors j'ai ri. Mais je n'arrive pas à dormir. Je reste éveillée jusqu'au petit matin.
Posées sur le sol, des menuiseries toutes neuves attendent de remplacer les fenêtres de René. Dans la maison en chantier, s'affairent de jeunes hommes vêtus de gilets fluorescents, au dos desquels on peut lire le nom de leur organisation. Baitna Baitak, notre maison est ta maison.
Il y a ici trois fenêtres qui sont cassées et les deux entrances d'or, les deux portes d'entrée. Ici, on va fermer toutes les portes et toutes les fenêtres avant l'hiver pour que René puisse vivre ici.
Chez René, les fenêtres ont volé en éclats le jour de l'explosion du 4 août.
Oui, à 4 août, oui. Et tout était détruit, toutes les fenêtres et toutes les portes d'entrée. On va refaire tout, les fenêtres et les portes.
Vous en êtes à quelle phase des travaux ?
Oh, on va finir aujourd'hui. On a terminé, on va faire tout aujourd'hui, les vitres et les fenêtres et les portes.
Ces menuiseries en bois que l'on voit et les vitres que vous allez poser dessus, elles viennent d'où ?
De Beit Nabaitak, on achète les bois et on fait. On amène d'argent. Il y a des gens de l'Amérique, de la France, et ils nous donnent des donations. On prend cet argent, on achète les bois, les vitres, on refait. On vient chez René, on voit, on fait un assessment, on voit qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'on va travailler. On achète tout, on les fait, on vient les mettre.
Et est-ce que pour l'instant, vous trouvez le matériau, le bois, le verre ?
Pas tout. On cherche des gens qui peuvent nous donner des bons prix. On essaye.
Ce bénévole s'appelle Ralph Rawand, il a 28 ans. Ingénieur en électricité, il ne travaille plus depuis des mois pour cause de crise économique sans précédent au Liban. Marc Miraël, Gemaïzé, nous sommes dans des quartiers de Beyrouth proches du port. Des semaines plus tard, le décor raconte encore la violence de l'explosion. Façades éventrées, toitures arrachées, vitres réduites en miettes, tôles pliées de voitures qui ne rouleront plus jamais et d'innombrables tas de gravats qui ont été déblayés de la chaussée et qui attendent d'être emportés un jour peut-être. Au bout d'une rue, un village de tentes et de parasols. Ce qui frappe immédiatement, c'est la jeunesse des Libanaises et des Libanais qui s'affairent autour de cartons empilés ou qui travaillent devant les écrans de leurs ordinateurs portables. Eux aussi sont des volontaires. Le 4 août, ils ont vu leur ville vaciller.
Bonjour, c'est Stéphanie. J'habite à Beyrouth. Je suis actrice et artiste. Et le jour de l'explosion, j'étais en route chez moi. Je passais par le port et ma voiture a explosé. J'appelle mes parents, ils me disent « il y a une grande explosion à Beyrouth ». J'appelle mon concierge et il me dit « il n'y a plus d'appart, c'est fini ». Je viens chez moi et je n'avais pas prévu voir ce que j'ai vu parce que les gens étaient morts dans la rue, il y avait du sang partout. Et je rentre chez moi, il y a du sang tout au long de l'escalier et je monte et il n'y a plus d'appart. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de furniture, plus de meubles, plus de kitchen, pas de cuisine. Ma chambre a été complètement détruite et c'était un choc incroyable parce que j'ai échappé d'une manière miraculeuse. Ça fait 3 semaines, je pense, depuis l'explosion. I don't remember. Ça a passé très vite. J'ai aidé mes amis m'ont aidé. J'ai fait tout ce que je peux pour mes proches. Et puis j'ai vu que je voulais aider plus de gens. J'étais bien, rien m'a touchée, heureusement. Et je suis venue à Base Camp. Alors c'est comme ça que je suis venue là.
Base Camp, camp de base. C'est en fait. Où sommes-nous d'ailleurs dans Beyrouth ?
On est à Manchayel, là où l'explosion a touché le plus.
Tout près du port.
Oui, près du port. Et je fais partie du groupe qui organise toutes les informations pour envoyer de l'alimentation pour les gens. Tout ce qui est household products, tout ce qui est food, tout ce qui est
nourriture,
tout. Les gens nous appellent et on prend leurs informations et on voit comment ils étaient affectés par l'explosion. Et on les aide tout de suite, normalement.
Ce camp de base, ce sont des parasols et des tentes avec des bureaux, des ordinateurs portables, des ventilateurs, des volontaires portent des gilets fluorescents, beaucoup de jeunes ici.
Beaucoup de jeunes.
Alors il y a plusieurs groupes qui se consacrent à différents besoins, différentes demandes.
Yes. En fait, il y a le groupe Beit Nabaitak qui est en train de...
Notre maison est ta maison.
Oui, ils sont en train de reconstruire les maisons des gens. C'est des ingénieurs, des architectes qui sont en train de travailler. Là, il y a le food dispatch et puis...
La distribution de nourriture.
Oui, tout ce qui est pour réparer les maisons, les nettoyer et tout est là.
Qu'est-ce que ça représente d'après vous ? C'est de la mobilisation populaire, spontanée, des jeunes de Beyrouth, du quartier ? Qu'est-ce que ça veut dire que ça soit des... bénévoles qui spontanément soient mobilisés.
En fait, c'est notre devoir. It's our duty. On est en train juste de le faire parce que l'État n'est pas en train d'aider les gens. Il n'est pas présent. On n'a pas d'État. Il y a pas une seule personne de l'État qui est venue nettoyer la rue, aider les gens, donner de la nourriture, rien. On n'a pas été aidés. En fait, ils descendent pour voir s'ils peuvent acheter les maisons des gens qui sont détruites.
Vous pensez qu'il y a déjà de la spéculation immobilière ?
Oh, complètement, complètement. C'est chaque jour, les gens sont en train d'affronter ça. Ouais.
L'explosion du 4 août a frappé un pays déjà confronté à une crise économique et sociale sans précédent. Selon l'ONU, plus de la moitié de la population libanaise risque de manquer de produits alimentaires de base d'ici à la fin de l'année, en raison de l'aggravation de la crise et aussi à cause de la destruction d'une grande partie du port de Beyrouth. Depuis des mois, les Libanais vivent un enfer économique. Paupérisation, chômage, inflation, crise de liquidité. Nous avons rendez-vous avec un homme qui a longtemps travaillé à l'intérieur du système. En juin dernier, Alain Bifani a claqué la porte du ministère des Finances, dont il a été le directeur général pendant 20 ans.
Très clairement, nous n'en sommes plus à un stade où nous sommes en train de nous battre pour une, deux ou trois réformes. Nous sommes en ce moment une croisée de chemin, et il y a l'option d'aller justement vers les réformes tant attendues qui permettraient à ce pays de se relever, soit de plonger encore plus dans la gabegie, la mauvaise gouvernance, la corruption, les inégalités. Et nous sommes en train d'ailleurs d'en voir les débuts, puisqu'il y a le gel des avoirs des gens dans les banques, puisqu'il y a un report, si vous voulez, des pertes du système bancaire vers le citoyen, une dépréciation impressionnante de la monnaie, et la gestion de la restructuration jusque-là est tout à fait en dessous de ce qui est attendu.
Alain Bifani, est-ce que ces dernières années, vous avez vu venir la catastrophe économique qui est celle que traverse aujourd'hui le Liban ?
Bien entendu, j'ai passé mon temps à dire « attention, nous allons vers la catastrophe ». Alors pourquoi ? D'abord parce que la machine économique était déjà morte et que nous vivions sous perfusion. Ensuite, peut-être parce que nous avons été trop aimés par nos amis. Nous avons eu un soutien sans condition ou sans suffisamment de conditions, ce qui a permis à ces élites, qui ne devraient pas être des élites, de continuer à faire les mêmes choses et de continuer à gagner du temps en utilisant l'argent public, en utilisant l'argent du citoyen.
Tout le monde dit à l'intérieur et à l'extérieur du Liban qu'il faut que ça change.
En interne, vous allez avoir évidemment un certain nombre de gens qui veulent du changement. Mais entendons-nous, les élites dont je vous parlais, la pieuvre politico-financière, n'a aucune envie de voir le moindre changement se produire. Ils sont toujours en train de parier sur un peu d'argent pour gagner encore plus de temps. Parce qu'encore une fois, ce sont des gens qui considèrent, et peut-être à juste titre, que toute réforme se fait à leur détriment, puisqu'ils ont fait main basse sur toute l'économie et toutes les ressources. Et que si l'un d'entre eux cède, il va être en position de faiblesse par rapport aux autres. Et donc, organiser le fait que tous cèdent à la fois, c'est très compliqué. Il faut beaucoup de pression. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une tentative, elle est sabotée instantanément.
Allô ?
Allô, bonjour.
Bonjour. You can come up. Welcome to the floor.
They're pushing us to leave.
Ils nous poussent à partir. Vraiment, ils nous poussent à partir. Je ne peux pas retirer mon argent à la banque ou alors avec un taux de change deux fois plus élevé que celui du marché, ce qui est un désastre. Alors que nous voulons partir, je ne peux pas récupérer mon argent et prendre un nouveau départ ailleurs. Je dois littéralement recommencer à zéro.
Rim et son mari Youssef ont déjà mis en vente leur voiture et d'autres objets afin de financer leur départ du Liban. Ils ne savent pas encore si c'est en Australie, à Chypre, en Turquie ou ailleurs qu'ils referont leur vie. Mais ces trentenaires, parents de deux enfants, sont décidés à partir à tout prix.
We go to the supermarket once a week, me and my husband, and the prices are insane.
Mon mari et moi, nous allons au supermarché une fois par semaine et les prix sont déments. Le prix des couches est passé à 120 000 livres libanaises alors qu'elles étaient à 40 000.
It's not just
Ce ne sont pas seulement les hommes politiques qui en profitent, ce sont aussi les commerçants et les importateurs qui abusent des gens. C'est un marché sans règles où ils veulent seulement nous sucer le sang. Donc il n'y a absolument plus aucune raison qui nous pousse à rester. La seule chose qui nous manquera, c'est nos parents, nos familles. Mais si nous restons pour eux, alors nous offrirons une vie médiocre à nos enfants. Si nous partons, nous leur offrirons une vie extraordinaire dans un pays normal où on a l'esprit tranquille, où on est en sécurité.
In a normal country, with peace of mind and with the security, we know they will be safe.
C'est une superbe maison entourée d'un jardin dans le quartier de Mar Mikhaïl. La porte d'entrée est désormais inaccessible. Il faut passer par la propriété voisine et franchir un muret éventré pour arriver ici. Privée de ses fenêtres, la maison ottomane bâtie au début du XXe siècle est ouverte aux quatre vents. Les pièces, avec leur immense hauteur sous plafond et leurs arcades, sont remplies de débris de boiseries et de meubles. Un casque de chantier vert sur sa chevelure brune, la psychanalyste Reina Sarkis nous attend au dernier étage de sa demeure en ruine.
On nous ressasse à longueur de journée l'histoire de la résilience, qui est un concept qui est faussement appliqué, faussement compris, et qui ne veut absolument plus rien dire, puisqu'à la base, la résilience, c'est l'élasticité psychique et la capacité à rebondir d'un traumatisme, et non pas à s'adapter sans fin, comme dans une sorte de mise en abîme, de trauma en trauma, et de rester dans une sorte de survie qui dégénère et qui se désintègre, et dire oui, c'est de la résilience. S'adapter à l'humiliation, s'adapter à ne plus avoir aucune dignité, aucun droit basique, ça c'est pas de la résilience. Les Libanais aiment beaucoup crâner, aiment beaucoup dire qu'ils sont forts, qu'on les jette, ils se retrouvent debout, etc. Jamais de ma vie je n'ai entendu un cri aussi massif et collectif de détresse psychologique, parce que les Libanais ont ce déni ou cette réaction défensive de dire oui, on rebondit, ça passe immédiatement sur le mode maniaque de l'humour noir, c'est-à-dire ils expédient, puis il y a une autre catastrophe ou un autre scandale qui vient effacer celui d'avant, ils continuent, la vie continue avec un désintègrement systématique et eux pensent qu'ils sont en train de s'adapter. En fait, là, ce n'est plus du tout la même chose. Il y a vraiment la moitié de la ville qui a été détruite sur la tête de ses habitants. Si vous vivez au Liban, vous comprenez que pour beaucoup de Libanais, le seul endroit où ils se sentent encore relativement en sécurité, c'est quand ils sont chez eux. La maison a plusieurs sens, elle a plusieurs symboles, mais c'est surtout vraiment le lieu, c'est notre corps, la maison, c'est notre représentation de nous, c'est chez soi, on est chez soi, on est dans nous-mêmes. Et c'est le seul endroit où on est encore dans une sécurité, même si elle est fictive, mais dans une sensation de sécurité, d'être protégé. Et quand on vous fait sauter, quand on vous souffle avec tout ce que vous êtes, tout ce qui vous entoure, tous vos objets personnels, votre histoire, votre culture, vos objets, vos affaires, vos habits, vous-même, votre corps, ils nous ont réellement annihilés. C'est un crime contre l'humanité. Moi, je pense qu'on n'est même pas encore au niveau des syndromes du stress post-traumatique. Je pense que toute la population est encore en état de choc. Je peux vous dire, moi je suis psychanalyste, mais je suis aussi victime, je suis aussi citoyenne, j'ai aussi sauté avec ma maison, j'ai eu une explosion, je ne comprends même pas comment je suis vivante aujourd'hui. Mes voisins du dessus, d'en face, ils sont soit morts, soit dans les hôpitaux, ils ont des tendons arrachés, des genoux explosés, des côtes, un œil qui a sauté. Je vous parle aujourd'hui, j'étais devant la baie vitrée, l'explosion est venue vers moi, j'ai été soufflée, je me réveille dans des dégâts, dans un truc apocalyptique de fin du monde. Et je réalise petit à petit que c'est pas moi, c'est mon appartement, c'est pas mon appartement, c'est mon immeuble, c'est pas mon immeuble, c'est le quartier, c'est pas le quartier, c'est la ville.
Beyrouth, l'espoir en faillite. Un reportage de Nicolas Benita et Nicolas Falaise.